Bonjour, bienvenue dans votre émission Histoire et mémoire sur Radio Grand Ciel. Nous sommes aujourd'hui en présence de Vincent Acheret, responsable de fouilles archéologiques au sein de la direction de l'archéologie de la ville. Nous allons évoquer ensemble les découvertes et l'histoire de la Porte Guillaume, un édifice familier du Chartrain. Vincent, bonjour.
Bonjour Julia.
Vous êtes en charge des opérations de fouilles de la Porte Guillaume. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Oui, alors ces fouilles s'inscrivent dans le programme de reconstruction de la Porte Guillaume, qui a été initié en 2010. Donc nous, on a commencé les fouilles en 2010 et pendant 4 campagnes, nous avons fouillé la Porte Guillaume.
Vous avez fouillé la Porte Guillaume et aussi la Barbacane. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, on a principalement fouillé la Barbacane, et la Barbacane, c'est une petite fortification qu'on construisait devant les portes de château ou les portes de ville au Moyen-Âge.
Donc un édifice un peu de défense hein, en avant de la porte. Est-ce que vous pouvez décrire vos interventions au cœur de cette Barbacane ?
Alors, en 2010, on a commencé par la partie sud. Puis en 2011, nous avons fait la partie sud et la partie nord. Et les deux dernières campagnes, 2012-2013, nous avons fouillé exclusivement la partie sud pour terminer toute cette zone.
Donc en fait, vous avez fouillé la Barbacane comme si on pouvait la diviser en deux zones. Donc partie sud, c'est côté...
Partie sud, c'est à gauche quand on regarde la ville. Et donc partie nord, c'est à droite.
D'accord. Donc de part et d'autre du petit pont qui mène à la Porte Guillaume.
Tout à fait.
Et grâce à ces interventions, quels sont les plus anciens vestiges que vous avez retrouvés ?
Les plus anciens vestiges sont les vestiges antiques. On est arrivé jusqu'à des vestiges du 2e siècle après Jésus-Christ.
Est-ce que là, du coup, vous avez besoin d'affiner vos recherches ? Quelles seraient les investigations qui resteraient à mener sur cette
Alors, ce qu'il faudrait finir, c'est finir la partie nord, fouiller sous la voie, fouiller les fossés et étudier la porte.
En attendant ce vaste programme de fouilles à venir, nous on va se concentrer pour l'instant sur les siècles et la découverte de l'histoire de la Barbacane. Nous ferons ensuite une petite visite guidée avec Vincent de l'édifice au 15e siècle. Et enfin, nous vous présenterons quelques objets découverts sur le site. Donc Vincent, vous nous emmenez sur le site de la Porte Guillaume. On va débuter notre voyage dans le temps à partir de quel siècle ?
On va commencer au 1er siècle. Ce qu'on a découvert au 1er siècle, c'est qu'un bradeleur passait dans ce secteur et qu'il a fallu aménager ce secteur en amenant des remblais de cailloux, en créant une voie, en créant un trottoir. Il fallait dompter la rivière, en fait.
D'accord.
Et à partir du 2e siècle, c'est un habitat qui va s'installer sur ces remblais.
Donc on est dans la cité antique de Tricoum avec ses quartiers et ses voies habituelles. Quels sont les éléments d'habitation gallo-romaine que vous avez retrouvés ?
Alors on a retrouvé une cave, on a retrouvé des solins, donc la base des murs. On a retrouvé un trottoir, un caniveau, une voie et un bassin. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un habitat assez luxueux, puisqu'on a retrouvé des éléments de marbre, des corniches, des fragments de colonnes. Et un caniveau qui était relativement bien conservé et très très bien construit.
Alors moi, je ne suis pas spécialiste de voirie. Pourquoi on retrouve un caniveau, surtout que vous m'avez laissé entendre, c'était un caniveau en bois ?
Oui, tout à fait. En fait, on a retrouvé le caniveau en bois parce qu'à la fin du 2e siècle, tout cela a brûlé. Le caniveau a brûlé intégralement, mais a été très vite comblé. Donc le bois a été préservé. Donc nous avons pu retrouver tous les éléments en bois de ce caniveau.
Ce qui nous indique hein, quand même que les Romains étaient des bâtisseurs et des précurseurs en termes d'urbanisme. Est-ce que tout a été détruit ? Parce que là, vous parlez donc du coup d'un incendie. Que reste-t-il de ce quartier ?
Il ne restait rien. Tout a été détruit, tout a brûlé, tout est tombé, tout est resté en place. Ce qui nous a permis de découvrir toutes les strates, toutes les couches dans un ordre logique. C'est-à-dire qu'on a d'abord fouillé les tuiles. Puis sous les tuiles, on avait la charpente, et sous la charpente, on avait effectivement les niveaux de sol de l'époque antique.
Génial. Mais ensuite, que se passe-t-il si tout a brûlé ? Quelles sont les traces
Alors ensuite,
d'habitat.
le secteur semble plus ou moins abandonné, mais on va retrouver beaucoup de fosses dépotoirs, donc des poubelles, hein, des poubelles qui vont s'étaler entre le 4e et le 11e siècle.
Et est-ce que vous avez découvert quelques indices dans ces poubelles?
Alors on a trouvé beaucoup d'éléments. On a trouvé évidemment des poteries, donc on avait des pots, des assiettes, des cruches, des coupes. On a retrouvé des bijoux comme des épingles à nourrice, enfin des fibules. On a retrouvé des bagues. On a retrouvé un peigne, beaucoup de vaisselle en verre aussi, et évidemment des éléments d'architecture issus de cette habitation antique.
Et quelle était la physionomie là, du quartier au fil des siècles? Comment évolue-t-il? Parce que l'on passe de la période antique quasiment au début du
Alors il faut
Moyen-Âge.
imaginer qu'entre le 4e et le 11e siècle, on est plutôt dans un habitat semi-rural avec des maisons en matériaux légers, c'est-à-dire en torchis avec des toits de chaume, et des animaux qui se promènent en semi-liberté, des poules, des canards, voilà.
Mais alors toujours pas de porte Guillaume en vue.
Toujours pas, il faut attendre le 12e siècle pour voir la première porte Guillaume.
Et qu'est-ce qui se passe justement au XIIe siècle et à quoi peut ressembler cette première porte Guillaume? Parce que je suppose qu'elle doit être différente de celle qu'on voit en photo ou en archive.
Oui, alors au XIIe siècle, c'est plutôt la fin du XIIe siècle, on est sous le règne de Philippe Auguste, et ce roi va vouloir fortifier ses villes, et donc on va retrouver la première porte Guillaume qui va ressembler à ce que pouvait être la porte Morard, c'est-à-dire une grande porte cubique avec une petite entrée voûtée pour les charrettes.
Et est-ce que comment elle a été construite cette porte
Alors, cette porte a été construite suite à un accord entre le comte Thibaut V et l'évêque Pierre de Celles. Leur accord était de reconstruire la muraille de la ville de Chartres, et l'évêque était chargé de construire la partie en basse ville, donc la partie qui concerne la porte Guillaume, et c'est son représentant, Guillaume de Ferrières, qui a supervisé les travaux, et son prénom est resté, et c'est pour ça que cela s'appelle la porte Guillaume.
D'accord. Et quels sont les autres vestiges du XIIe siècle que vous avez retrouvés? Est-ce qu'il y aurait par exemple des traces d'activités particulières?
Oui, justement, on a retrouvé ce qui pourrait s'apparenter au chantier de construction de cette première porte Guillaume. On a retrouvé une petite forge, on a retrouvé un habitat qui était au ras de l'eau, qui semble être l'habitat où étaient logés les ouvriers,
D'accord.
puisqu'on a retrouvé des petites oboles. Les petites oboles, c'est des petites pièces de monnaie avec lesquelles on payait ces ouvriers. Et on a retrouvé quelques outils en fer, plus ou moins indéterminés, mais qui devaient servir à la construction de cette porte.
D'accord. Et au-delà du deuxième siècle, puisqu'on va remonte le temps, que se passe-t-il sur le site une fois la première porte construite?
Alors a priori ça ne bouge pas jusqu'au XIVe siècle, plutôt au milieu du XIVe siècle avec le début de la guerre de Cent Ans. Voilà, il faut pas oublier que Chartres se situe aux confins du royaume de France et du royaume d'Angleterre, donc va être sujette à de multiples alertes. Donc on va penser à reconstruire une muraille beaucoup plus importante et reconstruire une nouvelle porte Guillaume.
Donc du coup, si elle est reconstruite, quelle est du coup sa nouvelle physionomie? Est-ce que vous pouvez nous détailler cette nouvelle porte très très rapidement?
Alors, au début du XVe siècle, on va reconstruire la porte en avant de celle du XIIe, et on va créer une porte avec deux tourelles et un petit châtelet d'entrée. Et puis, à partir du milieu du XVe siècle, avec le développement de l'artillerie, on va construire la barbacane pour défendre cette porte.
Barbacane que vous allez nous faire visiter virtuellement dans la seconde partie de l'émission. Qu'est-ce qui arrive du coup, Vincent, après le XVe siècle? Que devient le site de la porte Guillaume?
Alors, très très rapidement, la barbacane va être. On va autoriser les habitants à s'installer sur la barbacane, puisqu'en fait, la barbacane est construite à la fin de la guerre de Cent Ans. Donc, elle n'a plus vraiment
Donc,
d'usage
pas très
militaire.
utile,
Et
oui.
on va louer le terrain à des artisans, à des aubergistes. Et à partir du XVIIe siècle, on va démanteler cette barbacane. Quelques maisons vont subsister jusqu'en 1944 et l'explosion de la porte Guillaume et des vestiges de la barbacane.
Donc c'est vrai qu'il faut rappeler donc que la barbacane et la porte ont été totalement explosées lors de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe au-delà de 1944?
Alors après 1944, tout va rester en place et la Barbacane va devenir successivement un parking, puis un espace vert qui avait perduré jusqu'en 2010, juste avant les fouilles.
On peut d'ailleurs voir l'évolution du site en images sur l'application. Je fais un petit peu de promotion pour cette application disponible sur smartphone et tablette qui s'appelle Chartres, la porte Guillaume in situ, que vous aviez développée donc en 2012. Donc on peut la télécharger gratuitement et donc voir les différences de physionomie du site selon les époques. Donc je vous invite voilà, à compléter l'émission par une petite visite virtuelle. En attendant donc la description par Vincent après cette petite pause musicale.
This is for all the lonely people thinking that life has passed them by. Don't give up until you drink from the silver cup and ride that highway in the sky. This is for all the single people that love has left them dry. Don't give up until you drink from the silver cup. You never know until you try. Well, I'm on my way. Yes, I'm back.
Prenons le cours de notre émission consacrée aujourd'hui à la Porte Guillaume et sa Barbacane. Ce sont deux édifices médiévaux donc bien identifiés par nous chartrains, mais dont finalement on ne connaît pas bien l'histoire. Et grâce à Vincent Acheret qui est responsable des fouilles du site, nous allons essayer d'en percer les mystères. Vincent, pouvez-vous nous rappeler, pour ceux qui n'auraient pas pris l'émission au départ, qu'est-ce qu'une Barbacane ?
Alors une Barbacane, c'est un ouvrage fortifié construit devant les portes de châteaux de ville. C'est un mot qui nous vient du Moyen-Orient et qui signifiait littéralement « galerie servant de rempart devant une porte ».
Alors racontez-nous sa construction.
Alors sa construction coïncide avec la guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans, c'est aussi le développement de l'artillerie. Et les portes de ville ne résistent pas aux tirs de boulets. Donc il faut construire des petites forteresses devant ces portes pour éviter les tirs de boulets directement sur les portes en bois. Donc pour créer la barbacane de la porte Guillaume, on a creusé un petit fossé de dérivation, ce qui a créé un îlot, et cet îlot a été fortifié.
D'accord. Et comment pénétrait-on dans cet îlot fortifié, dans cet édifice défensif qui devait être impressionnant ?
Alors, on pénétrait au sud par un petit pont en bois, un pont dormant, c'est-à-dire que c'était un pont qui ne se relevait pas.
D'accord.
Et on entrait dans la barbacane qui était protégée par une tour ronde et une tour carrée.
Donc si je comprends bien, l'entrée de la barbacane qu'on dit côté sud, c'est que ça n'était pas dans l'axe de la porte Guillaume ?
Tout à fait, l'entrée n'est pas dans l'axe de la porte Guillaume, toujours pour éviter les tirs de canon directement sur la porte Guillaume.
Et est-ce que c'était un édifice imposant, cette barbacane ?
Alors la barbacane, elle était assez imposante, elle faisait 47 mètres de long sur 15 mètres de large, avec des murs de 8 mètres à 8,50 mètres de haut pour une épaisseur de 2,50 mètres. Tout était fait pour résister aux tirs des canons.
Aux aux assauts. Et une fois à l'intérieur de cette barbacane, qu'est-ce que pouvait voir notre voyageur ou notre visiteur ?
Alors une fois à l'intérieur, le voyageur va emprunter un petit chemin de terre. Ce chemin sera pavé à partir du XVIe siècle. Donc en empruntant ce petit chemin, sur sa gauche, côté ville, il va trouver une petite maison qui est en fait l'abri des gardes.
D'accord.
Et sur sa droite, on va retrouver un forgeron. Alors ce forgeron était là pour réparer les chariots, mais aussi pour certainement ferrer les chevaux. Voilà. Et tout en progressant sur ce chemin, en allant vers la porte Guillaume, donc le chemin va s'incliner sur la gauche pour aller vers la porte Guillaume, et le voyageur va croiser les casemates, ou loges de tir, qu'on peut encore voir actuellement.
Alors là, moi je ne suis pas spécialiste de l'armement, qu'est-ce que c'est qu'une casemate ?
Alors une casemate, en gros une casemate, c'est un creusement qui est effectué dans la muraille afin d'y installer des archères canonnières.
Et du coup, c'est là qu'on a installé canons, arbalétriers, des spécialistes de l'artillerie aussi. Mais il n'y avait que deux canonnières, du coup, pour se défendre ?
Alors, du côté nord, on avait deux canonnières et deux archères pour se défendre. Et côté sud, donc vers l'entrée, on avait aussi, a priori, deux canonnières et deux archères. Plus, évidemment, le chemin de ronde qui permettait de surveiller les faubourgs et la campagne environnante.
Donc, il fallait vraiment peut-être montrer patte blanche là pour pénétrer dans la ville.
Alors, il ne faut pas oublier que tout ce matériel d'artillerie n'est en place qu'en cas d'alerte. Hein. En temps de paix, on peut rentrer et sortir de la barbacane juste en passant par le bureau d'octroi pour payer les frais de marchandises.
Mais Vincent, est-ce que cette barbacane a connu une bataille mémorable ?
Eh bien non, parce que construite à la fin de la guerre de Cent Ans, elle n'a jamais connu de bataille. Et c'est pour cela que dès le XVIe siècle, des maisons sont construites sur son emplacement.
Et il n'y avait que des maisons, des habitations sur cet espace ?
Alors non, pour être plus précis, il y avait des auberges et des artisans, et notamment un tanneur, puisque nous avons retrouvé les vestiges de cette tannerie, et notamment deux tonneaux. Donc là, on est au XVIIe siècle, oui. Deux tonneaux remplis de chaux, de cendres et de fientes d'oiseaux.
Mmh.
Oui, ces tonneaux étaient faits pour tremper les peaux et brûler les derniers poils pour que la peau soit prête à être travaillée.
Donc on a ces ateliers et puis tout au long d'ailleurs de l'heure, on a pas mal de métiers comme ça liés au travail de la peau. Ou ça se voit d'ailleurs sur les noms des rues. Mais là, sur la barbacane, est-ce que tout ça reste en place jusqu'à la destruction de la porte en 44? Est-ce qu'il y a des changements au fil du temps?
Alors, il va y avoir de grands changements à partir du 18e siècle. On va vouloir embellir les boulevards et la barbacane. Donc c'est à cette époque qu'on va construire les deux ponts en pierre que l'on connaît actuellement, et sur lesquels on peut encore rouler et marcher. Et le petit pont de bois de la barbacane, lui, va disparaître.
Donc le petit pont et le pont-levis de la porte sont remplacés donc, par ces ponts en pierre. Et du coup, vous m'aviez dit aussi, en préparant l'émission, que les murs étaient arasés. Donc la barbacane sert vraiment de support pour des habitats, des ateliers. Elle ne sert pas. Alors pourquoi l'avoir maintenue ?
Oui, effectivement, en 1804, Napoléon déclasse la ville en tant que place forte et on démantèle l'enceinte pour ouvrir la ville sur l'extérieur. Et il y a même un projet de destruction de la barbacane et de la porte Guillaume, mais ce projet ne sera pas mis en place puisque la porte Guillaume est la dernière des portes et on va décider de la garder pour son intérêt esthétique et pour être un témoignage du Moyen-Âge. Par contre, ces deux vestiges, en 1911, seront classés au titre des monuments historiques.
Voilà, d'autres monuments du coup qui rejoignent la liste des monuments historiques de la ville de Chartres. Merci Vincent, vous avez décrit cette barbacane et son évolution au fil des siècles. On va maintenant écouter une petite chanson, on se retrouve après pour découvrir quelques objets curieux ou étonnants. Vous avez découvert l'heure des fouilles, à tout de suite. Thank you. De retour dans votre émission Histoire et Mémoire pour la dernière partie consacrée à la Porte Guillaume et sa barbacane. Nous sommes donc en présence de Vincent Hacheret, responsable des fouilles sur le site archéologique. Vincent, vous avez choisi de nous présenter quelques objets retrouvés lors des fouilles. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ?
Alors j'ai choisi trois objets significatifs. Le premier, c'était un double tournoi. Alors ce double tournoi, une petite histoire, c'est qu'il a été découvert dans la tour du côté sud, dans la maçonnerie. Et un double tournoi, c'est une monnaie du royaume de France qui a été frappée à Châlons-en-Champagne entre 1447 et 1461, donc sous le règne de Charles VII ou sous le règne de Louis XI.
D'accord.
Ce qui est intéressant pour nous, c'est que grâce à ce double tournoi, on peut dater la construction de la tour sud en fait. Voilà.
Et est-ce qu'elle a des motifs ou...
Alors, on peut décrire un petit peu cette pièce. Alors, sur l'avers, donc l'avers, c'est une des faces, on peut y voir trois lys dans un trilobe. Mm-hmm. Et sur le revers, on peut y voir une croix pâtée dans un quadrilobe. Voilà.
C'est une petite pièce ou une grande
pièce ?
Oui,
c'est une petite pièce de 2 cm pour environ 1 gramme. C'est une pièce en cuivre et en argent.
C'est quand même quelque chose de précieux, finalement.
C'est assez précieux, donc on se pose la question du pourquoi de cette pièce dans la maçonnerie. Alors c'est soit le maçon qui, lors de la fabrication du mortier, a fait tomber cette pièce dans le mortier, ne l'a pas vue et a construit son mur, et nous l'avons retrouvée. Soit c'est une sorte de petit dépôt pour contrecarrer le mauvais sort et faire que la construction dure dans le temps.
Comme une protection pour cet édifice. Et quel est votre deuxième objet ?
Alors, le deuxième objet, c'est un couteau, plutôt une lame de couteau, puisqu'on retrouve très rarement les manches, on retrouve plutôt les lames en métal. Et cette lame de couteau a été retrouvée dans un des tonneaux de l'atelier de tanneur qui était décrit précédemment. Et elle a été parfaitement conservée puisqu'elle était mélangée à la chaux et au sable. Donc, sur cette lame, nous avons retrouvé un petit symbole qui était une croix pâtée et le nom de Jacques Graillon. Alors Jacques Graillon, qui était Jacques Graillon. Jacques Graillon était un coutelier de la région de Saint-Étienne. C'était à cette époque, la région de Saint-Étienne, donc au XVIIe siècle, exportait beaucoup, beaucoup de couteaux partout en France et surtout en Nouvelle-France, c'est-à-dire au Québec, actuellement le Québec et l'Amérique du Nord. Et ce qui est intéressant, c'est que ce couteau, alors pas ce couteau, mais son jumeau, aurait été découvert au Canada, à l'île aux Oies, qui se trouve dans le golfe du Saint-Laurent.
Une histoire extraordinaire. Du coup, on a deux couteaux jumeaux, un à Chartres et
Oui,
un au Québec.
oui.
Et je crois qu'il y a un autre objet, enfin deux autres objets que vous vouliez nous présenter.
Oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Nous avons retrouvé deux œufs. Voilà.
C'est pas banal.
Dans des couches du XVIIe siècle, nous avons retrouvé deux œufs de canard de Barbarie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce canard, c'est un canard d'Amérique du Sud qui a été découvert au XVIe siècle et importé en Europe à la fin du XVIe siècle. Donc, nous, ça nous donne aussi une indication pour la date de ces couches dans lesquelles ont été retrouvés ces œufs. Et ce que ça nous indique aussi, c'est que vu la quantité de terre qui avait été posée sur ces œufs,
Oui.
ça nous indique un comblement très lent. Donc, ce qui veut dire que les fosses dans lesquelles étaient ces œufs étaient très très lentement
Rempli.
comblées. Donc, les gens se promenaient à côté de fosses, donc c'était des fosses dépotoirs, se promenaient à côté de fosses dépotoirs qui étaient ouvertes pendant des années et des années. Voilà. Et pour la petite histoire, un des œufs a été cassé en début de matinée, vers 9 h du matin. Il a été évacué tout de suite et l'odeur épouvantable est restée toute la journée dans nos narines.
C'est une mauvaise omelette.
Voilà, tout à fait.
Et c'est sur cette anecdote donc que nous allons achever cette émission. Merci Vincent pour cette présentation de la Porte Guillaume et de sa barbacane. Pour rappel, vous pouvez découvrir un petit peu plus les premières fouilles dans le livret Archéo numéro 13 qui est téléchargeable sur le site internet archéologie.chartres.fr. Vous pouvez également donc visiter virtuellement la barbacane grâce à l'application Chartres La Porte Guillaume in situ que je vous invite donc à télécharger. Je rappelle que des visites de l'exposition Les objets mystérieux de votre ville donc, sont organisées les premiers et troisièmes mercredis du mois sur réservation à la direction de l'archéologie. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve le mois prochain avec Bruno Bazin, responsable des fouilles du site de Saint-Martin-en-Val, et nous évoquerons ensemble un autre site emblématique de la ville, l'église de Saint-Martin-en-Val. Vous pouvez réécouter donc l'émission sur le site de Radio Grand Ciel. Bonne journée à tous.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed.